Nous recevons ta parole ce matin, Père, avec joie, avec révérence et avec beaucoup de sérénité. Parce que nous savons, Éternel, que ta parole est bonne pour nous. Et nous sommes persuadés, Père, qu'elle va répondre à nos questions, qu'elle va asseoir ta vérité dans nos cœurs, qu'elle nous amène encore plus loin dans la transformation pour que nous puissions ressembler à Jésus. Nous t'invitons, merveilleux Saint-Esprit, à faire ce que tu aimes faire, amener la révélation, magnifier Jésus, glorifier le Fils de Dieu. Montre-nous le Père dans le nom puissant de Jésus.
Amen.
Je vais vous demander d'ouvrir dans 1 Timothée 3. Le verset 14, le verset 15. Nous bénissons le Seigneur. Oh, we are so blessed. Nous sommes tellement bénis d'être sauvés, de connaître Jésus. Et si vous n'êtes pas sûr de connaître Jésus, vous le connaîtrez par la grâce de Dieu avant la fin de ce culte. Alléluia. Il est merveilleux. Our God is so good. 1 Timothée 3, verset 14. Nous sommes en train de terminer la série sur le socle de la vérité. Ce sur lequel nous nous asseyons en tant qu'Église, en tant que peuple, en tant qu'individu, nous qui sommes appelés par le nom de Jésus. Comment devons-nous vivre? Qu'est-ce que nous devons croire? Nous vivons dans un monde où il y a toutes sortes de philosophies qui abondent dans une société et dans une génération qui a décidé d'adopter des pensées, des idées, des mœurs radicalement éloignées de ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Il est important pour nous, en tant qu'individu, en tant qu'Église, de nous définir, de savoir en qui nous avons cru et ce que nous avons cru, et de savoir dans quel sens nous irons, dans le sens du compromis, dans le sens de l'accord avec le monde, dans le sens de l'Évangile. Nous avons choisi d'aller dans le sens de l'Évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est d'accord avec moi? Nous avons choisi d'aller dans le sens de l'Évangile. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Timothée 3 au verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance, yes, Father, d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans les versets précédents, l'apôtre Paul explique à Timothée, il envoie une lettre à son fils Timothée, qui, l'histoire nous dit, est chargé de l'église, était chargé de l'église d'Éphèse. Et vous connaissez cette église, nous en avons souvent parlé, nous aimons beaucoup l'église d'Éphèse. Et il lui a envoyé une lettre lui expliquant quel type de personnes il faut mettre dans des positions de responsabilité dans l'église. Ce qui en ressort, bien sûr, c'est la droiture, la sagesse, la bonne conduite, etc., etc. Mais ce qui est frappant ici, c'est qu'il lui dit, après avoir expliqué ce type de personnes qu'il faut mettre dans des positions de responsabilité, il lui dit, la raison pour laquelle j'écris ces choses, c'est que je vais bientôt venir te voir, donc je vais bientôt parler avec toi, face à face, n'est-ce pas? Mais je t'écris ces choses à l'avance, de telle sorte que tu sauras comment les gens devraient se conduire dans l'église. Ça, c'est important. Il y a une conduite à avoir dans l'église. Il y a une façon de vivre quand on s'appelle enfant de Dieu. Alléluia! Ça, c'est déjà quelque chose. Mais ce que je veux souligner ici, c'est la manière dont il définit l'église. Il dit que c'est la maison de Dieu. Pour commencer, la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est très important. Ce n'est pas la maison du pasteur. Ce n'est pas la maison de la personne qui conduit la louange. Ce n'est pas la maison des responsables. Ce n'est pas notre maison à nous, c'est la maison de Dieu. Et ce n'est notre maison que parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc Dieu est le personnage central. Et l'église n'est pas notre église, c'est son église dont nous faisons partie. Et cela a une implication très, très importante dans ce que nous allons voir par la suite. Le fait de reconnaître le rôle fondamental, central et principal que joue Dieu au sein de son Église. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans différents endroits dans la parole de Dieu, lorsqu'il est question d'Église, on parle de l'Église universelle. Mais ici, il écrit à Timothée par rapport à une Église locale. Et cela s'applique bien sûr à toutes les Églises locales, dont Abba House, Glory to God. Mais il écrit par rapport à une Église locale. Et l'Église locale, dans ses définitions, c'est l'église du Dieu vivant, c'est la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant et la colonne et l'appui de la vérité. C'est quelque chose de fondamental. Il est important pour nous de le saisir parce que Dieu va commencer à changer notre vision de l'église locale. C'est la colonne de la vérité. C'est l'appui de la vérité. Et Dieu fonctionne à travers son église pour porter sa vérité dans toutes les générations. Il fonctionne à travers son église pour faire en sorte que sa vérité ne disparaisse pas dans toutes les générations. Et c'est la raison pour laquelle il y a une telle pression de l'intérieur comme de l'extérieur pour que les églises changent leur discours et changent leur message, pour que les pasteurs commencent à enseigner autre chose, à adopter d'autres méthodes, d'autres systèmes, d'autres philosophies pour, entre guillemets, attirer les gens à Christ. Mais combien de gens savent que la puissance est dans l'évangile? La puissance est dans la vérité, et non pas dans les méthodes, ni dans les styles, ni dans les discours philosophiques. Ce n'est pas parce que nous sommes d'accord avec les gens qui vont venir à Jésus, et si nous sommes d'accord avec eux, que nous nous éloignons de l'évangile pour les attirer à Jésus, à quoi est-ce que nous les avons attirés? Parce que nous n'aurons pas prêché la vérité. L'église est la colonne. L'église est l'appui de la vérité. Amen. Et c'est fondamental pour nous de le comprendre. D'abord que Dieu est le centre de son église, ce n'est pas nous. Donc l'église est là pour répondre aux besoins de Dieu sur la terre, aux désirs de Dieu sur la terre. L'église est là pour accomplir ce que Dieu veut faire sur la terre. Elle n'existe pas pour accomplir le ministère du pasteur. Elle n'existe pas pour accomplir le ministère des chantres. Elle n'existe pas pour qu'un tel et un tel ait une place, un rôle et fasse quoi que ce soit. Elle existe pour que Dieu fasse sa volonté. Et quand nous avons cette conception de l'église locale comme quelque chose qui existe autour de la personne de Dieu, qui est au centre, qui décide, qui dicte, qui conduit à travers les personnes qu'il a mises en place, bien entendu, mais qui est la référence principale. Et nous sommes là pour exécuter ses desseins. Non pas ce qui nous convient, ni ce qui nous arrange, ni ce qui nous bénéficie, ni ce qui fait en sorte que les gens viennent chez nous plutôt que chez l'autre. Parce que maintenant, nous sommes en concurrence. L'église qui est en bas de la rue, ils sont à 300. Il faut que nous aussi, on arrive à 500. Et pour cela, il faut s'éloigner de l'évangile et dire ce que les gens ont envie d'entendre pour qu'ils viennent chez nous. Mais ils peuvent venir chez nous, mais ce ne sera plus chez Dieu. Nous voulons que ce soit chez Dieu. Amen. Parce qu'il nous a dit que c'est la maison de Dieu. Amen. Et quand nous comprenons que c'est la maison de Dieu, notre fonctionnement change. Nous cessons de vouloir nous imposer. Nous cessons de vouloir conduire, diriger. Nous commençons à nous attendre devant lui pour savoir ce qu'il veut. Parce que la seule chose qui compte, n'est-ce pas, c'est que Dieu soit content. La seule chose qui compte, c'est que Dieu soit satisfait. Le monde entier peut l'être. Si Dieu ne l'est pas, nous aurons couru en vain. Le monde entier peut nous applaudir. Si Dieu n'applaudit pas, nous aurons servi en vain. Et comme je dis toujours dans cette église, nous ne vivons qu'une seule fois. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Rassurez-moi, vous ne croyez pas à la réincarnation. Nous ne vivons qu'une seule fois. Et cette vie que nous vivons ne compte que dans la mesure où elle correspond au cœur du Père. Comme nous avons déjà vu dans cette série, nous sommes passagers sur la terre. Hébreux 11 nous dit que nous sommes en exil sur la terre. Nous sommes passagers, mais plus que passagers. Et quand nous partirons d'ici, nous allons rendre des comptes pour ce que nous avons fait de notre vie et de son église. Non pas mon église, mais son église. La maison de Dieu, dites la maison de Dieu.
La maison de Dieu.
La colonne et l'appui de la vérité.
Amen.
Si elle est la colonne et l'appui de la vérité, ça veut dire qu'elle doit s'attacher à la vérité. Qu'elle-même doit aimer la vérité. Et l'église, c'est une communauté. C'est la communauté de Dieu. La communauté, cette communauté, de façon universelle, existe sur la terre entière. Mais Dieu en place dans des localités différentes. Et là où elle est, elle fonctionne comme un corps. Elle fonctionne comme une communauté. Et elle doit être la colonne de la vérité. Elle doit elle-même aimer la vérité. Ce qui veut dire que chacun de vous doit aimer la vérité. Non pas simplement aimer ce qui est prêché, qui vous arrange aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, on a parlé contre mon péché, je ne reviens plus. Ou le pasteur m'a regardé un peu de trop quand elle a parlé de ça, elle doit me soupçonner, je ne reviens plus. Non, mais vous devez aimer la vérité.
Amen.
Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai dit que si dans une période de 6 mois, je ne dis rien, je ne fais rien qui vous vexe, c'est que je ne vous dis pas la vérité. Parce qu'il y a certainement quelque chose en vous que Dieu veut travailler. Et il y a un moment donné où un serviteur de Dieu, s'il suit l'Esprit de Dieu, va dire quelque chose qui va toucher à votre péché et qui va vous agacer. Donc la prochaine fois que vous êtes agacé, pensez que ce n'est peut-être pas la faute du pasteur. Glory to God. Nous sommes chargés de faire prospérer la vérité. Chaque église locale est chargée de faire prospérer la vérité, de faire avancer la connaissance de la vérité, faire avancer la connaissance de Jésus, la connaissance de l'évangile. L'église locale n'est pas là pour fournir le repas à ses membres. Elle peut fournir des repas si ses membres sont dans le besoin. Jésus a nourri les gens qui sont venus. Mais ces gens ne sont pas venus à Jésus pour qu'il les nourrisse. Ils sont venus à Jésus pour entendre la parole de Dieu. Et sur ce faisant, ils ont eu besoin de manger et il leur a donné à manger. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui font partie d'une église simplement parce qu'on leur dit comment obtenir de l'argent. Ce n'est pas votre cas à Bauhaus. Glory to God. Rassurez-moi. Nous venons pour connaître Dieu, pour connaître la vérité. Chacun devrait s'intéresser à la vérité. Si on commence à vous interroger sur l'évangile, sur la nature de Dieu, sur la rédemption, est-ce que vous saurez dire ce que vous croyez? Si nous voulons être l'appui et la colonne de la vérité, nous devons la connaître. Et non seulement ça, nous devons l'aimer. Et en terminant cette série, il est important pour nous de porter notre attention non seulement sur l'aspect individuel, mais l'aspect collectif en tant qu'Église, où nous nous situons. Nous nous situons donc dans ce contexte de colonne de la vérité. C'est ce que nous sommes appelés à être en tant qu'Église. D'appui de la vérité, de ceux qui font en sorte que la parole de Dieu est connue telle qu'elle. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas négliger de nous focaliser sur les fondamentaux de l'Évangile. Sur la nature de Dieu, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a une narration biblique. La création, à l'opposé de l'évolution. La création en Dieu conscient qui a choisi d'amener l'homme à l'existence. Non pas l'homme qui est issu de processus naturel, entre guillemets. C'est fondamental à notre foi. S'il n'y a pas un Dieu créateur, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de foi. Nous nous attachons à la narration biblique. La création, le péché, la chute, la rédemption, la venue de Jésus qui n'était pas en meurtre, la mort de Jésus qui n'était pas en meurtre mais en sacrifice. En don de soi, le don de soi ultime qui nous sert d'exemple. Comme nous avons déjà vu, si Jésus a pu tout donner, qu'est-ce que vous avez de si précieux que vous ne pouvez pas tout lui donner? La réalité de la rédemption en Jésus. Une église qui est centrée sur la personne du Christ. Parce que vous comprenez, Jésus a dit « Je suis la porte des brebis ». Et cette porte est celle à travers laquelle nous entrons pour accéder au Père. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité. Non pas une vérité, mais la vérité. Non pas parce qu'il était mégalomaniaque, mais simplement parce que c'était vrai. Ne le disons parce que nous sommes exclusifs, mais parce que c'est vrai. Et l'évangile n'est pas ce qui permet d'exclure ceux qui n'y croient pas, c'est ce qui permet d'inclure tout le monde. Parce que sinon, nous sommes tous exclus. Centré sur l'évangile. Et c'est merveilleux parce que Dieu nous donne un exemple incroyable dans cet homme qui s'appelle Paul. Cet homme qui en savait des choses. Il était pharisien. Il était parmi les plus lettrés de sa génération. Et il finit par résumer sa prédication, nous prêchons Christ. Et pour beaucoup d'entre nous dans notre génération, c'est trop basique. Passons au déchiffrage des codes secrets. Passons à des choses. que nous seuls connaissons. Que dans 20 et quelques siècles de chrétienté, personne n'a jamais vu ces choses. Nous faisons des séminaires spéciaux pour enseigner et décriant tous les pasteurs qui se contentent de prêcher Christ et Christ crucifié. Ah oui, mais ils n'ont pas encore compris ces choses. L'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Parce que cet homme a compris que Dieu, dans sa bonté, a décidé d'enlever ce qui séparait l'homme de lui et qu'il fallait qu'un prix soit payé pour le péché de l'humanité. Et aucun être humain ne pouvait le payer. Et que celui qui était sans péché a accepté de se faire pécher pour nous. Et a donc ouvert la porte à toute humanité pour que quiconque croit. Et ces choses sont tellement merveilleuses. Mais nous, je comprends ça. Mais encore, il y a des choses encore plus profondes. Mais qu'y a-t-il de plus profond? Nous prêchons Christ. Et Christ crucifié. Vous savez, dans Actes chapitre 4, l'apôtre Pierre s'est tenu devant ces gens quand l'homme qui était infirme a été guéri. Et les gens ne comprenaient pas. Et ces mêmes gens, vous savez, c'était peu de temps après l'ascension de Jésus. Donc peu de temps quand même, relativement après le ministère de Jésus. Et beaucoup de ces gens le connaissaient et le méprisaient. Et l'apôtre Paul a dit ceci, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. » Et qui est devenue la principale de l'angle. Jésus est devenu la principale de l'angle. Et il reste la principale de l'angle. Et il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus. Une église locale ne peut prêcher une autre vérité en dehors de Jésus. Et ici à Abaras, nous avons un mandat de prêcher Christ et Christ crucifié. N'en déplaise à certains. Christ crucifié. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Glory to God. Il n'y a de salut en aucun autre qu'il n'y a sous le ciel. Aucun autre nom. Il est important pour nous en tant qu'église d'être attachés à cette question de Jésus et Jésus seul. Ce n'est pas populaire parce que nos amis aimeraient que nous puissions dire oui, Jésus est. N'est-ce pas? Les membres de nos familles aimeraient que nous puissions dire oui, 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 mais bien sûr, Jésus est. Et vont vous regarder droit dans les yeux, ça veut dire que je vais aller en enfer. Et vous, non, mais si tu es quelqu'un de bien, non, oui. Je vous ai dit hier à la réunion de prière, ma nièce m'a posé la question. C'est sa mère l'a obligée à se baptiser alors qu'il n'est pas converti. Je lui ai dit, mais tu n'es pas converti. Elle m'a dit, oui, mais on m'a dit que si je me fais baptiser, je ne vais pas aller en enfer. Je lui ai dit, mais tu n'es pas converti. Oui, mais moi aussi, j'ai dit que je voulais attendre, mais ils ont insisté. Mais elle me dit, oui, mais alors, je suis baptisée, mais même si je ne suis pas née de nouveau, je vais aller en enfer. Je dis, oui. Elle fait, oh. Je dis, mais tu peux te convertir. Amen. Tu peux donner ta vie à Jésus. Amen. Jésus est la porte des brebis. Amen. Ce n'est pas une porte fermée, c'est une porte ouverte. Alors, les gens, dans leur arrogance, refusent d'ouvrir la porte et veulent que nous, on leur dise, c'est pas grave, ne passe pas par la porte. Mais non. La solution est simple. Passe par la porte. Dites à votre voisin, passe par la porte. Elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Et en tant qu'église, nous allons nous attacher à être une colonne de la vérité. Une colonne de la vérité. Glory to God. Et quand je n'étais pas convertie et que les gens me parlaient, que je leur disais, ah bon, parce que moi, je suis dans les ténèbres. Ils me disaient, oui, ça m'énervait. Ah, vous ne saviez même pas. Vous ne l'imaginez pas à quel point ça... Oh, si j'étais de nature violente, certains auraient perdu la vie. Mais ils ont osé le dire. Et nous devons oser le dire. Parce que la personne qui n'en est pas contente aujourd'hui, demain va prêcher l'évangile.
Amen.
Et c'est pour cela que dans cette église, nous sommes attachés à la connaissance de la parole de Dieu. Tous ces cours, vous pensez que tous ces cours, c'est juste pour vous fatiguer. Tous ces cours, c'est juste pour vous obliger à vous lever tôt. Parce que le pasteur se lève tôt, elle veut faire en sorte que tout le monde se lève tôt. Mais si vous passez 8 heures au travail, et que vous ne pouvez pas passer 2 heures dans la parole de Dieu par jour, Vous êtes quoi comme chrétien? Quelle est votre valeur comme chrétien? Soyons sérieux. La parole de Dieu. Nous nous attachons à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde où nous avons besoin de savoir en qui et en quoi nous avons cru. Et que si cet attachement à la parole de Dieu n'est pas ancré en nous, nous ne sommes d'aucune utilité pour les gens qui nous entourent. Et si nous n'avons pas cet attachement à la parole de Dieu, nous sommes facilement conduits ailleurs. L'être humain est curieux. Il a toujours besoin de quelque chose qui va titiller sa chair. Donc, il y a toujours quelqu'un aussi pour vous prêcher quelque chose qui va titiller votre chair, pour que vous n'alliez pas en profondeur dans la réalité de la rédemption. Mais ce n'est pas nouveau. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans 2 Timothée 4, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Glory to God. Et on dirait qu'il parle de notre siècle et de notre génération. Il suffit d'aller sur Internet pour voir ce qui est enseigné, ce qui est prêché. Il y a des années de cela, je commençais à être un peu dérangée. J'entendais ça, mais c'est du motivational speaking. Ça, c'est du coaching. C'est de la motivation pure. Où est l'évangile? Où est Jésus? Où est la croix dans tout ça? Oui, ça encourage, oui, mais l'évangile ne fait pas qu'encourager. Parfois, l'évangile vous rend malheureux. Mais c'est une tristesse qui vous conduit à la repentance, qui vous conduit à la joie.
Amen.
Mais si nous sommes focalisés sur le fait de dire des choses agréables aux gens tout le temps, même quand Dieu veut les rappeler à l'ordre, il faut leur dire quelque chose d'agréable, parce que si pas du culte et qu'ils ne sont pas contents, ils ne reviendront pas et qu'ils restent chez eux. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vous savez, ce ne sont pas des choses nouvelles. Mais c'est important pour nous en tant qu'Église de nous positionner comme colonne de la vérité. Nous allons nous attacher à la parole de Dieu, à ne pas enseigner des fables, ni dire ce qui fait plaisir aux gens juste parce que ça fait plaisir aux gens. Il était un temps dans l'histoire d'Israël où le peuple s'était éloigné de Dieu, était dans la désobéissance, mais il y avait quand même des prédicateurs pour leur dire les choses agréables. Et celui qui leur disait « Dieu n'est pas content de ça » était celui qui était mal vu. Et Dieu a dit dans Jérémie 23, 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Nous devons avoir foi dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu telle qu'elle amènerait les gens à la conversion. Non pas la parole de Dieu édulcorée et vidée de sa substance, pour faire une prière rapide aux gens qui leur donnent l'impression d'être nés de nouveau alors qu'ils ne sont absolument pas régénérés. Et nos églises sont remplies de gens qui ne sont même pas régénérés. Mais Dieu dit que ma parole brise le roc. La parole de Dieu, quand elle est prêchée telle qu'elle, elle détruit les obstacles, elle agit à l'intérieur. Mais ce qui pour moi est affolant, c'est ce qu'il a dit par la suite. Il a dit qu'il en voulait aux prophètes qui disaient leur parole et disaient que c'était la parole de Dieu. Je ne veux pas que Dieu m'en veuille. En réalité, j'ai davantage la crainte de Dieu que la crainte de vous. Je ne veux pas que Dieu m'en veuille. Il a dit qu'il en voulait aux prophètes. Qui prenaient leur parole et disaient, que c'était Dieu qui l'avait dit. Il a dit qu'ils disaient des mensonges aux gens, ils égaraient les gens, et pire, ils ne sont d'aucune utilité pour les gens. Or, quand vous regardez ce qui se passait à l'époque, les gens étaient contents de ces personnes. C'est un peu comme dans nos églises aujourd'hui, là, c'est l'équivalent d'une grande prédication. Tout le monde est debout, yeah! Comme les anglophones savent le faire. Avant qu'on nous disait deux phrases, yes! On preach! Je vous ai dit l'église où j'étais aux États-Unis une fois, je n'ai rien compris du message. Mais rien. Je parle anglais, rassurez-vous, je suis anglophone. Donc, ce n'était pas la langue. Mais rien compris du message parce que deux phrases. Yeah, oh, man of God, yes, preach. Et moi, j'étais là, j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Il faut qu'il y ait un contenu à la prédication. Et pas simplement du vent et du souffle. Et j'essayais de comprendre. Je suis sûr qu'ils n'ont rien compris non plus parce qu'ils n'ont réussi à rien dire. Et les gens étaient satisfaits, étaient contents. Ne fonctionne pas selon l'approbation exprimée des gens, mais selon l'approbation exprimée de Dieu. Et à l'époque en Israël, les gens approuvaient beaucoup ces prophètes-là. Ils étaient contents de ce qu'ils disaient parce que ça les encourageait dans le sens de leur désobéissance. Ça ne les mettait pas du tout au défi, donc ils étaient satisfaits. Mais Dieu a dit, ils ne sont d'aucune utilité pour ces gens. Donc à Barras, nous avons décidé. Vous savez, lorsque vous avez des questions à remplir, il y a des questions. Vous savez, en examen, il y a des questions, même en formulaire que vous remplissez. Il y a des questions clés, ensuite il y a des questions optionnelles. Vous avez des options, par exemple, sur un formulaire. Vous devez cocher des options. Et nous avons décoché, tout est bien, décoché l'option popularité. Toutes les options popularité, nous avons décoché. Nous avons coché l'option vérité. Alléluia. Alléluia. Tout ceci nous conduit à nous dire que si nous nous attachons à la vérité, nous devons vivre la vérité. Nous devons avoir des valeurs qui expriment cette vérité. Alléluia. Et c'est ce que nous vivons, ce que nous sommes, les valeurs qui sont visibles dans nos vies, qui vont montrer à notre génération le sérieux de ce que nous croyons. Quand vous avez des gens qui sont chrétiens et qui ont du mal à même, ne serait-ce qu'aller adorer Dieu, et ils sont en train de prêcher à leur famille, moi je te dirais, si c'est pas suffisamment important pour que tu te lèves, pour aller te retrouver avec les autres, pour adorer ce Dieu, pourquoi moi je devrais m'y intéresser? Ça c'est une chose assez simple, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres. La parole de Dieu nous invite à vivre une vie digne du Seigneur. Nous avons vu ce passage dans Colossiens. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Une manière digne du Seigneur. Et en tant qu'Église, nous avons l'intention de marcher d'une manière digne du Seigneur. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire, n'est-ce pas? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Mais c'est le choix que nous avons fait. Est-ce que c'est le choix que vous avez fait individuellement? Vous avez intérêt à avoir fait ce choix. Alléluia. Mais la valeur principale que nous avons vue, c'est le fait que tout procède de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est au centre. Nous avons dit que c'est la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. Donc Dieu est au centre. Dieu est le Père. Dieu est celui autour de duquel nous sommes tous assis. N'est-ce pas? C'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est la source de tout. Donc, dans une église locale, la chose première, c'est la relation que nous entretenons avec lui. Et la chose première dans cette relation, c'est l'adoration. L'on ne peut dire « j'appartiens à Dieu » et ne pas l'adorer. Parce que la chose que Dieu inspire en premier, chez les gens qui réellement s'approchent de lui, c'est la révérence. C'est la révérence, de par sa nature. Vous savez, il y a des gens, vous êtes avec eux, vous avez tendance à beaucoup parler. Parce qu'eux parlent non seulement, rien que pour faire passer quoi que ce soit, il faut que vous parlez très vite. Et il y a des gens, vous êtes avec eux, vous avez tendance à ne rien dire, parce qu'ils sont très calmes, ils ne parlent pas beaucoup. Dès que vous dites trois phrases, vous avez l'impression d'avoir trop parlé. Si vous êtes sensible, il y a des gens qui ne sont pas sensibles, ils parlent où qu'ils soient. Mais il y a des gens qui inspirent certaines choses, et Dieu inspire le respect. Nous avons l'intention en tant qu'Église de le respecter. Je vous parle constamment du fait que Dieu nous est supérieur. Et dans notre mouvement charismatique, nous sommes devenus des copains de Dieu. Des potes de Jésus. Ah Jésus, écoute, arrête ton cinéma. Comment ça je dois arrêter la fornication? Oh écoute, c'est pas évident. Non. Où est la crainte? Où est la révérence? Le fait que Dieu ne veut pas quelque chose doit m'amener en tant qu'enfant de Dieu à dire, toute ma chair le veut, mais je décide que moi non plus, je ne le veux pas. Une église qui adore Dieu, qui honore Dieu, qui a la révérence pour Dieu, où la présence de Dieu est manifeste parce qu'il voit que les gens qui y sont l'honorent. Dieu se manifeste là où il est honoré. Il ne se manifeste pas là où il n'est pas honoré. Et on peut être comme des endroits où personne n'a que faire de Dieu. En fait, chacun est venu pour son truc à lui. Moi, je suis venue parce que, je veux un nouveau contrat, il faut que le pasteur prie pour moi à la fin du message. Et moi, je suis venue parce que, il est temps que je me marie, et il faut qu'il me fasse l'onction d'huile à la fin du message. Donc, vous allez avoir le moment de prédication, amen, mais on attend impatiemment qu'il arrête et qu'il m'impose les mains. Et la louange, bon, c'est un peu long là, 20 minutes, c'est long. C'est long. Au bout de 20 minutes, on s'asseye parce qu'on n'en peut plus. Ah, ils chantent longtemps ici. On s'assoit, quand le pasteur va venir, oh, alléluia. Des adorateurs. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Pierre 2, 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, écoutez, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous sommes une maison spirituelle. Il y a des gens qui disent d'être spirituels. Amen. Une maison spirituelle en saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors pour ceux qui disent, c'est quoi des victimes spirituelles? Des sacrifices spirituels. Nous offrons des sacrifices spirituels, nous offrons notre louange, nous offrons notre adoration, nous sommes émerveillés par Dieu. Ce Dieu dont l'Église est sa maison, est la maison, nous le trouvons objectivement merveilleux. Alléluia! Alléluia! Et si vous ne le trouvez pas merveilleux, allez prier quand vous rentrez à la maison. Dites-lui, Seigneur, je veux te trouver merveilleux. Je veux te trouver merveilleux parce que dans toute mon expérience avec toi, je te sers, je te suis, etc., etc., mais je ne peux pas dire que je te trouve merveilleux. Je n'ai pas de tels sentiments à ton égard. Alléluia. Mais je veux les avoir. Qui veut les avoir? Trois personnes, quatre, cinq, je compte, je regarde, levez la main parce que je veux voir. Wow, glory to God! En tant qu'église, une maison d'adoration, une maison de prière, une maison de prière, on n'a même pas besoin d'inventer ça. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Ça sort de la bouche de Jésus. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Nous sommes une maison de prière. Il y a des années de cela, lorsque nous avons commencé la semaine 5 à 7, il y a des gens, ils peuvent prier à 10 heures du matin. Mais à 5 heures du matin, pasteur exagère. Mais j'avais un voisin dans le temps pour qui c'était dur de venir à l'église pour 10 heures. Mais à l'époque, on avait culte à 9 heures. Pour 9 heures, c'était très dur de venir à l'église pour 9 heures. Vous savez à quelle heure il travaillait tous les jours? À 5 heures. La valeur de votre foi se voit dans votre degré d'engagement, ce que vous êtes disposé à faire. Vous savez, après toutes ces années de chrétienté, vous avez beaucoup de compassion, mais vous n'aimez plus les bêtises. Il y a des choses qui doivent sortir de nous, qui doivent être des choses qui ne nous arrangent pas forcément sur le coup, mais qui font plaisir à Dieu. Et ce sont ces choses qui nous font grandir spirituellement. Parce que voyez-vous, qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire pour Dieu? Vous ne pouvez pas aller à la croix, c'est déjà fait. Mais Dieu a des choses à faire sur la terre et il veut des gens qui vont prier. Et Dieu agit quand il y a quelqu'un qui prie. Vous êtes aujourd'hui ici, aujourd'hui, parce que quelqu'un, quelque part, a crié à Dieu pour vous. Et l'église locale doit être une maison de prière. Doit être le lieu où il y a des gens qui prient constamment pour l'église, mais aussi pour ceux qui ont besoin de venir à la connaissance de Jésus. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas dans ce bâtiment aujourd'hui parce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt ouvert à l'évangile. Je n'étais pas du tout ouverte à l'évangile. Mais ces gens que je trouvais désagréables ont beaucoup prié pour moi. Ces gens avaient quelque chose, ils priaient beaucoup. Ils avaient de longues robes, certes, et des foulards, mais priaient beaucoup. Aujourd'hui, nous avons des robes plus courtes, nous sommes plus cool et nous ne prions plus. Nous demandons, mais où est la puissance? Thank you, Jesus. Ma maison sera appelée une maison de prière. Parce que Dieu est au centre de l'église locale, la communication avec lui devient primordiale. La communication avec lui devient le cœur de tout ce que nous faisons. La communication avec lui, nous qui l'adorons, nous qui prions, nous qui l'écoutons, nous qui recevons sa parole, la communication avec lui est le cœur de tout. Et à partir de là, nous savons ce qu'il veut. La communication avec lui qui doit conduire à une chose essentielle, l'obéissance. Je vous ai cité la semaine dernière A.W. Tozer, je n'ai pas la citation devant les yeux, mais il expliquait le fait que souvent nous essayons de substituer la prière à l'obéissance. Donc, nous savons quels sont les principes de Dieu, nous savons ce que Dieu veut et nous ne les faisons pas, mais nous prions beaucoup. Et une fois, j'étais en train de travailler avec quelqu'un sur un projet et je passais du temps avec la personne. On voyait le projet, il y a ça. Je donnais des instructions. La personne revenait pour me faire un feedback et n'avait rien fait de ce que j'ai dit. Elle a fait autre chose. Et allez encore, on a encore passé quelques... Non, j'ai repris, c'est ça. Et la personne partait. Une semaine après, elle revenait, rien fait de ce que j'ai dit. Et j'ai commencé à comprendre ce que Dieu doit ressentir. Nous passons du temps à parler avec lui. Soi-disant l'écouter, à prier beaucoup pour ce que nous voulons. Et nous partons de là et nous ne faisons absolument pas ce que lui veut. Et nous continuons à prier. Nous disons, mais je prie beaucoup moi. Est-ce que j'obéis beaucoup? Est-ce que j'obéis beaucoup? Est-ce que je suis soumis à la parole de Dieu? Est-ce que je suis soumis aux instructions de Dieu? Parce que s'il n'y a pas de soumission, la prière devient vite un exercice dans la futilité. On se demande, mais pourquoi on ne voit pas chemin? Pourquoi je ne vois pas ceci? Parce qu'en réalité, Dieu ne m'écoute plus. Vous pensez que Dieu nous écoute toujours? Il nous entend. Mais ça ne veut pas dire qu'il écoute. Oh, je vais vous lire. Notez la référence. Amos chapitre 5. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui devraient nous interpeller. Dans Amos chapitre 5, nous sommes en train de parler de la manière de nous conduire en tant qu'église, n'est-ce pas? Intimité, adoration, prière, obéissance. Au verset 21, il dit ceci, je méprise vos fêtes. C'est Dieu qui parle. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je vais répéter ça parce que nous aimons chanter. Nous n'offrons plus des veaux engraissés. Donc, qu'est-ce que c'est les veaux engraissés? Nous, on mange les veaux engraissés. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Troisième, je n'écoute plus vos pianos ni vos guitares. Éloignez de moi vos chants, vos cantiques. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais nous tarit. La droiture, le sérieux, l'obéissance, la soumission. En dehors, sans cela, nos chants, nos prières ne valent rien. Et quand Dieu dit « Je hais vos fêtes », moi ça me fait frémir. Et c'est la raison pour laquelle l'Église étant la maison de Dieu, bâtie autour de Jésus, nous sommes tenus constamment de lui demander « Qu'est-ce que tu penses de ce que nous faisons ?» Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que nous sommes en accord avec toi? Ce n'est pas uniquement, est-ce que les gens dansent et chantent parfois quand les gens conduisent la louange? Ils pensent que la louange est puissante quand les gens sont dedans. Alors tout le monde danse et bien contente. Tout le monde chante, et bien contente. Voilà, c'était puissant aujourd'hui. Non, est-ce que le Saint-Esprit était content? Nous voulons qu'il soit content. Nous voulons qu'il soit content. Si vous baptisez vos vies autour de la recherche du plaisir de Dieu, oh, vous allez vivre heureux. Parce que Dieu ne manque jamais de vous montrer quand il est content. Glory to God. Il n'y a rien de mieux que de vivre dans l'approbation de Dieu. Et c'est ce que nous voulons en tant qu'Église. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous dit de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Les valeurs. L'attachement à Dieu, l'attachement à faire connaître Jésus. Si nous sommes la colonne de la vérité, ça veut dire que la vérité doit être connue à travers nous. Pensez-y. Si nous sommes la colonne de la vérité, nous sommes l'appui de la vérité, ça veut dire que la vérité doit être connue à travers nous. Et que si elle n'est pas connue à travers nous, elle ne sera pas connue. Nous sommes en tant qu'Église, en tant que communauté. Parce que c'est ça. Et Paul écrit à cette église de Philippe. L'église de Philippe est une église que j'aime. Et lisez la lettre philippienne, vous allez comprendre pourquoi. C'est une église qui était à fond dans les choses de Dieu. Ils étaient partenaires avec Paul dans l'évangile. Ils étaient solidaires, ils travaillaient pour le Seigneur. Et Paul leur a écrit. Il leur a dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Combattons d'une même âme pour la foi de l'évangile. Nous existons pour cela. Nous n'existons pas pour que Edwige soit contente. Nous existons pour combattre pour la foi de l'évangile. Et c'est ce que nous allons faire. Est-ce que vous voulez le prêcher à votre voisin? Vous avez 5 secondes. Il y a des gens qui me regardent en souriant. Je vous ai demandé de le prêcher à votre voisin. Ce n'est pas le moment de donner une parole prophétique. Glory to God. J'avançais rapidement simplement pour vous dire ceci. Ce qui veut dire également ce qui veut dire, nous avons déjà vu cela, le sacrifice. Nous sacrifions notre temps. Nous sacrifions notre argent. Nous sacrifions nos droits. Est-ce que j'ai le droit de me reposer le dimanche matin? Bien sûr. Bien sûr. Mais je ne le fais pas. Parce que je suis trop intelligente pour faire ça. Glory to God. Trop intelligente pour passer mon dimanche matin à dormir au lieu d'être là à parler de Dieu, à être en communion avec Dieu. Est-ce que j'ai le droit de rentrer du travail le soir et aller me dormir plutôt que d'appeler Béa pour l'encourager dans sa foi? Bien sûr. Mais je suis trop intelligente pour ça. J'ai assez d'intelligence pour comprendre que la vraie joie, c'est en faisant la volonté du Père. La vraie joie, c'est en donnant. Et que nous sommes plus bénis en donnant qu'en recevant. Donc ce qui semble être un sacrifice en ce moment est réellement quelque chose que je suis en train de faire et qui finit par me bénir moi-même. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. C'est ça qui est extraordinaire. Débiteur de personne. Nous nous engageons à nous sacrifier. Je vous invite à vous sacrifier. Je répète, à vous sacrifier. Thank you, Jesus. Et qu'est-ce qu'il a dit encore à cette église de Philippe? Il dit ceci, vous demeurez fermes dans le même esprit, vous combattez pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer. Woo! Par les adversaires. Vous connaissez l'histoire de Flo-Flo, qui s'était laissé effrayer à Châtelet quand elle était allée annoncer l'évangile par les adversaires. Il lui a fallu quelques années pour retourner à Châtelet. Mais maintenant, elle est retournée en force et en puissance. Alléluia! Il dit à l'église de Philippe, ne vous laissez aucunement effrayer par vos adversaires. L'église a toujours eu des adversaires. Dans notre génération aussi, nous avons des adversaires. Et alors? Je vais vous entendre le dire. Et alors?
Et alors?
Qu'importe celui qui est en nous? Hein? Simple. Alors, il leur dit, ne vous laissez absolument pas du tout effrayer par les adversaires, ce qui est pour vous une preuve de leur perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce. Écoutez attentivement, cette partie est délicieuse. Non, mais cette partie est délicieuse, mais vraiment merveilleuse. Il vous a été fait grâce, Manu. Il t'a été fait grâce, ma fille. Oh, quelle grâce extraordinaire tu as reçue. Tu sais quelle grâce tu as reçue? Je vais te le dire. Par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore plus de souffrir pour lui. Alléluia! Non, ouais, je ne vous ai pas entendu. Alléluia! Il nous a été fait grâce de souffrir pour Jésus. Et nous allons le faire avec joie. Parce que la parole de Dieu nous dit de nous réjouir à chaque fois que nous souffrons pour Jésus. Et quand l'Église commence à se réjouir quand elle est persécutée à cause de l'Évangile, elle ne sentira plus le poids de la persécution. Au jour d'aujourd'hui, la persécution pour nous en Occident, c'est oh, « ils ont parlé mal de moi au travail parce que je suis chrétien. Pourtant, je leur ai dit que je n'y vais qu'une fois par mois. » Nous n'avons pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Alléluia! C'est la puissance de Dieu pour sauver. Thank you, Jesus. Il nous a été fait grâce de souffrir pour Jésus. Si Dieu dit que c'est une grâce de souffrir pour Jésus, et l'apôtre Paul devait savoir de quoi il parlait parce qu'il en a souffert. Et quand il a écrit cette lettre à l'église de Philippe, il était en prison. Thank you, Jesus. Alléluia! Dès que le chrétien est disposé à se sacrifier et à souffrir pour Jésus, tout est bon. Ça devient une joie. Nos valeurs, la séparation. Je vais terminer. Et rappelez-vous, quand l'apôtre Paul dit « je vais terminer », il y a encore deux chapitres après. Donc réveillez-vous. Je vais terminer. Je vais terminer en vous parlant d'une lettre que Jésus nous a écrite. Dans Apocalypse, il y a plusieurs lettres qui sont écrites aux églises, n'est-ce pas? Et il y a un homme de Dieu, Jim Cimbala, qui a dit quelque chose une fois qui m'a beaucoup frappée. Une fois, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Et il a dit ceci. Et je l'ai noté pour ne pas oublier. Le plus grand défi en étant en étant pasteur d'une église, c'est de savoir quelle est la lettre que Jésus a écrite à votre église. Quelle est la lettre que Jésus a écrite à votre église? Nous avons besoin de savoir quelle est la lettre que Jésus nous a écrite, parce que nous savons que nous avons un mandat. Notre mandat, c'est d'aller de faire des nations des disciples, n'est-ce pas? Et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre mandat, c'est de les enseigner à obéir. C'est ce que Jésus nous a dit de faire. C'est le mandat de toutes les églises. C'est ce que nous sommes censés faire. Et c'est ce que nous employons à faire à Abba House. Nous faisons cela. Nous appuyons sur la vérité. Nous faisons cela. Nous appuyons sur des valeurs. Nous faisons cela avec la foi. Dites la foi.
La foi.
Nous faisons cela en vivant une vie qui est déjà conforme à l'évangile, la séparation. Il y a un homme qui parlait d'un gangster bien connu à New York. Et ce gangster s'était converti. et où quelqu'un l'a amené à faire, il a été à une réunion de Billy Graham, il s'était pas converti, et finalement quelqu'un lui a parlé, et il a prié pour donner sa vie au Seigneur, et quand l'autre l'a interpellé sur le fait qu'il continuait à être gangster, elle a dit, mais j'ai pas compris, moi. J'ai vu qu'il y a des footballeurs chrétiens, j'ai vu qu'il y a des chanteurs chrétiens, je pensais que je pouvais être un gangster chrétien. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons être des gangsters chrétiens. La vie ne change pas, mais hallelujah, je suis sauvé. C'est comme toutes ces célébrités américaines qui s'habillent comme s'il n'y avait plus de tissu au marché et qui disent, je suis née de nouveau. Elle est née de nouveau, maintenant tout le monde est, même le diable est né de nouveau. Non, mais ce n'est pas ce que nous sommes censés être en tant qu'église. Nous sommes censés vivre une vie conforme à ce que nous disons. Et donc, œuvrer pour amener les gens à la connaissance de Christ. C'est le mandat de chaque église. Avec la foi, dites la foi.
La foi.
La foi, la vraie foi. La vraie foi. Ce n'est pas pour la prochaine voiture. La vraie foi, c'est pour obtenir des victoires pour Jésus. La vraie foi, c'est pour la moisson. La vraie foi, c'est pour croire que cette personne qui est devant moi, qui est en train de maudire le nom de Jésus, va se convertir. C'est celle qui m'amène à sortir dans la rue, à parler aux gens qui ont l'air d'être loin de Dieu et à croire qu'ils vont donner leur vie au Seigneur. C'est ce qui m'amène à participer, à bâtir l'église en croyant que nous allons changer une nation.
Amen.
Ça, c'est la foi. La foi et l'amour. Et tout cela fait partie de notre mandat. L'amour, dites l'amour. Vous savez comment on aime par la foi? Glory to God. Tout cela fait partie de notre mandat. Mais il y a une lettre que Dieu nous écrit. Et quand Jésus a écrit sa lettre à l'église d'Éphèse, de Pergamum et de Thyatire, ces trois églises ont été approuvées dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Pour leur fidélité, pour leur constance, pour leur endurance. Mais à chacune d'elles, Jésus a dit, mais j'ai ceci contre vous. Pour l'église d'Éphèse, c'était le fait que leur amour s'était refroidi. Pour l'église de Pergamum, c'était le fait qu'ils avaient accepté la fausse doctrine. Nous avons parlé de vérité, dites vérité. Et pour l'église de Thyatire, c'était le fait qu'ils avaient commencé à tolérer l'immoralité. On dirait l'église de France. Il y a une pression sur les pasteurs pour tolérer l'immoralité. Parce que quand les gens disent, j'ai donné ma vie au Seigneur, ils ne veulent pas changer. Non, ça ne touche pas. Non, ça c'est mon point sensible. Une pression pour que le passé ne soit pas grave. Dieu fait son œuvre. D'ici 10 ans, ça changera. Et donc cette église a reçu cette reproche. Je ne veux pas que Dieu me reproche cela. Et c'est pour ça que j'ai plus peur de Dieu que de vous. Thank you, Jesus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux églises, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, où Jésus a dit, c'est tout bon. C'est là où nous voulons aller. Alléluia. Alors, deux églises, l'église de Laodicée et l'église de Sardes. C'est la raison pour laquelle il faut savoir où on met les pieds. Parce que même à l'époque, il y avait des églises qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et nous voulons plaire au Seigneur. Et vers la fin de l'été, lorsque nous avons terminé notre semaine 5 à 6, le Seigneur m'a interpellé fortement pour me demander de continuer la prière tous les jours, pour le reste du mois, à 5 heures du matin. Vous savez, quand Dieu vous demande des choses comme ça, c'est parce qu'il a des choses à faire. C'est parce qu'il a des choses à dire. Il y a des gens qui pensent que oui, parce que je me lève tous les jours à 5 heures, de toute façon, donc ça ne change rien pour elle. Oui, mais je ne me lève pas tous les jours à 5 heures pour prier que pour vous. Je prie pour vous, certes. Mais là, il fallait ne prier que pour l'église de 5h à 6h. Nous avons décidé de le faire. Nous avons obéi à Dieu. Nous avons prié en langue parce que nous voulions prier la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu a commencé à nous écrire une lettre et à nous montrer les dysfonctionnements au sein de notre église. Et il nous aime. Vous savez que Jésus nous aime. Il vient au culte. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Mais il y avait des choses à corriger. Nous avons vu pendant ces dernières semaines, surtout à la prière de samedi, nous sommes repentis, nous avons prié, nous avons vécu des choses merveilleuses. Qui est d'accord avec moi?
Yes.
Je vous regarde. et le Seigneur a commencé à nous montrer qu'il y avait un manque de respect. Il y avait du désordre. Et il y avait de la rébellion. Et je bénis Dieu parce qu'il y avait un témoin quand ses parents ont commencé à arriver. On était choqués. On était parce que nous, nous, Dieu sait de quoi il parle. Et depuis, un par un, le Seigneur a commencé à montrer des choses, dévoiler, révéler des situations concrètes. Il dit, là, il y a un problème, là, il y a un problème, là, il y a un problème, là, il y a un problème. On a commencé à nous repentir et à inviter les uns et les autres à mettre de l'ordre dans leurs affaires. Glory to God. Parce qu'il ne peut pas y avoir ce genre de dysfonctionnement dans la maison de Dieu et recevoir l'approbation de Dieu. C'est ce que nous voulons, l'approbation de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous leurrer. Donc Jésus nous a écrit une lettre. Dans cette lettre, il y a eu des reproches. Et il a fallu aussi travailler sur d'autres choses comme les veilleurs et l'intérêt personnel. Et je vous ai encouragé parce que Jésus nous a montré à quel point nous sommes bénis à Bahas, n'est-ce pas? Mais chacun est focalisé sur sa vie. Il n'y a pas assez de gens qui sont focalisés sur l'œuvre de Dieu, sur l'église, sur notre église, l'amour de Bahas. Prier pour l'église et être dedans, participant dans ce que Dieu veut et porter l'église comme on porte son bébé et nous sommes focaliser sur nos intérêts personnels, nous jeûnons, nous prions pour nous. Je vous ai raconté ici, béni le Seigneur, ça a beaucoup évolué. Une fois, tu te souviens, à une réunion de prière, on a dit, on va prier pour l'église. Il y en a prié pour l'église. Maintenant, quand on dit, on va prier pour l'église, les voix fusent. Alléluia, Seigneur pour Abraham. Mais à l'époque, on a dit, on va prier pour l'église. C'était, amen, Seigneur, bénis l'église. Bon, maintenant, on va prier pour vous. Oh, Seigneur! Thank you, Jesus. Bien, moi, on s'est regardé. OK. Faut prier ici. Et c'est souvent comme cela. Et le Seigneur nous montrait qu'il manquait des veilleurs. Et depuis, il y a des gens qui se sont levés comme des veilleurs, qui vont veiller sur l'église, qui vont veiller sur les frères et sœurs dans la prière, qui vont fonctionner dans l'unité, dans une unité d'esprit, une unité de vision. Alléluia. Ça m'a lu la lettre. Il y a toute une série de choses. Nous pouvons vous envoyer le texte de cela plus tard. Mais ce qui est intéressant ici, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Et je suis persuadée que ce temps de prière que nous avons eu auparavant, non seulement nous a permis d'entendre ce que Dieu voulait nous dire, mais nous a permis aussi d'avoir des cœurs rendus sensibles. Et nous avons besoin de cœurs sensibles. Trop de chrétiens sont des mercenaires et viennent simplement pour pomper l'église et prendre ma bénédiction. Alors quand je parle, l'église peut crever, mais moi je prends ma bénédiction. Et quand elle est morte, on va dans l'église à côté. Et quand elle est morte, on va dans l'église à côté. Et quand elle est morte, on va dans l'autre. Et il y a toujours une qui commence de toute façon. Et c'est une mentalité qui doit changer. Parce que l'Église est la colonne de la vérité. L'Église est l'appui de la vérité. Une mentalité qui doit venir de notre génération pour que chaque homme, chaque femme qui s'intègre dans une Église locale décide d'y entrer totalement et participer à bâtir. Parce que Dieu a besoin d'Églises locales fortes. Nous avons un ministère à la télévision, mais je remarque ici que Jésus n'a pas envoyé une lettre au ministère de l'apôtre Paul, ni au ministère de l'apôtre Jean. Il a donné cette lettre à Jean, il ne lui a même pas parlé de son ministère, il lui a parlé des églises locales. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu a besoin d'églises locales solides et fortes. Et tous ceux qui font partie d'une église locale doivent s'investir, participer à ce que l'église soit forte, solide, en mesure d'être dans sa génération une colonne et un appui pour la vérité. Parce que notre génération a besoin de colonnes et d'appui de la vérité solide et inébranlable. Ce qui veut dire qu'on met de côté l'agenda personnel, mon idée, mon opinion, ma vision, et qu'on commence à demander à Dieu, quelle est ta vision pour ton œuvre? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton église? L'église est une communauté d'amour, une communauté de foi, une communauté de service. Ce n'est pas le lieu où je fais triompher ma volonté, c'est le lieu où Dieu fait triompher sa volonté. En fait, le seul lieu où vous faites triompher votre volonté, c'est seul dans votre chambre. Et quand vous êtes marié, c'est fini. Glory to God. Glory to God. La chose qui caractérise le royaume de Dieu, c'est le service. Jésus s'est offert en sacrifice au service de notre salut. Il y a une question d'abandon. Catherine Booth, est-ce que vous connaissez l'armée du salut? Bien, Catherine Booth, qui est la cofondatrice de l'armée du salut, elle a dit que pour travailler pour Dieu, réussir dans l'œuvre de Dieu, il faut un abandon total. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par un abandon total? Et elle dit que ça s'applique partout. Elle dit, par exemple, si vous avez des soldats qui partent à l'armée, qui passent leur temps, ils disent, ça va me coûter quoi ça? Est-ce que je suis vraiment sûre que je vais être dedans? Est-ce que, ceci comme font beaucoup de chrétiens à l'église, oh, je sais pas, je suis là, mais bon, je ne sais, bon, je suis dedans, vraiment, mais ça, non, mais en fait, non, je sais, mais je suis là, non, ah, alléluia, mais jamais totalement impliqué. Il dit, mais si ces gens partent à l'armée en se disant, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais devoir sacrifier? Est-ce que je vais devoir abandonner? Est-ce que je vais devoir laisser derrière moi? On me demande trop, aller à la guerre. Mais c'est beaucoup, j'extrapole. Hein. Elle dit, mais on ne veut pas de ce genre de personnes dans l'armée britannique. Ce que nous voulons, ce sont des gens qui vont y aller et qui vont décider qu'ils vont gagner, quel que soit le prix. Ce que Dieu veut dans une église locale, c'est les gens qui vont intégrer l'église. Et ce que nous voulons à Abba House, c'est les gens qui vont intégrer Abba House, qui sont à Abba House et qui vont dire, nous allons gagner, quel que soit le prix. Quel que soit ce que ça va vous coûter personnellement. Vous comprenez? Vous êtes invités à donner votre vie. Non, mais je n'entends pas d'amen là. Vous êtes invités à donner votre vie. Non pas à venir le dimanche matin m'applaudir, mais à donner votre vie pour l'évangile. À donner votre vie pour bâtir des églises locales fortes dans toute la France. À donner votre vie pour que l'évangile avance dans votre génération. À donner votre vie pour que quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas le Seigneur soit sauvé comme vous ne connaissiez pas le Seigneur et que vous avez été sauvé. À donner votre vie, à céder tout à Jésus, à le laisser faire le bilan et à vider votre vie de tout ce qui n'est pas de lui, des ambitions personnelles, des désirs de je veux faire, moi je, à faire disparaître tout cela et à amener devant vous ce que lui veut. Ce que lui veut. Ce que lui veut. Ça s'appelle la joie. Alléluia. Ça s'appelle la joie. Et tant qu'on n'a pas tout donné, on ne sera jamais pleinement satisfait. Jamais. Parce que le chrétien est appelé à tout donner. Non pas juste à venir à l'église et à être béni, recevoir l'imposition des mains jusqu'à la semaine prochaine. C'est de la médiocrité. Vous n'êtes pas fait pour la médiocrité. Et votre voisin a besoin de le savoir. Prêchez-lui un peu l'évangile. Dites-lui, tu n'es pas fait pour la médiocrité. Alléluia! L'abandon total. C'est d'accord avec moi? Ça a intérêt. L'abandon total. On donne tout à Jésus. Et on donne tout pour Jésus. On donne son argent. On donne son temps. On donne son argent. Pas ses pièces jaunes. On ne donne pas des pourboires à Dieu. Et après, on va aller s'installer au restaurant. On donne son argent. Les anglophones ont des expressions merveilleuses. Ils disent, put your money where your mouth is. Tu dis croire en quelque chose, mets ton argent dedans. On donne son argent. Les francophones, je vous aime. Mais qu'est-ce que vous êtes pingres? On prend une offrande et ça résonne de tous les côtés. Toutes les pièces y entrent. Mes enfants, vous avez des billets? Ce n'est pas un message sur l'argent, mais on donne. Quand on aime, on donne. On donne son argent, on donne son temps. Mais je parle temps. Tout le monde a le temps. Nous avons tous 24 heures. Levez la main si vous avez moins de 24 heures dans une journée. Je cherche et on va faire l'imposition des mains. On donne son argent, on donne son temps. Elle dit ceci, Catherine Booth, elle dit, Dieu veut des hommes et des femmes qui vont y aller pour gagner, qui croient à la victoire. un changement de mentalité. Tous ces gens qui sont persuadés que tout le monde va en enfer de toute façon, sauf moi et ma famille. Et que non, ce pays, c'est trop dur. Non, ce n'est pas trop dur. On parle avec les gens dans la rue. L'autre jour, il y avait une brocante ici. On est allé chercher des problèmes d'aller évangéliser. Et on a rencontré un homme, mais au style dédaigneux. Et il avait grandi à l'église. Et même pas catholique. Peut-être qu'il est l'église catholique. Non. Évangélique. Et arrivé à l'adolescence, il s'était éloigné de tout ça. Et quand les gens au marché lui disaient, ah oui, ils vont te parler de Dieu, il dit, non, c'est moi qui vais les enseigner. Mais une arrogance. Et il parlait avec Flo, il refusait de me regarder. J'essayais, non, il ne voulait pas me regarder, il fixait Flo. Il lui parlait, il refusait de me regarder. Et Dieu l'a attrapé. Parce qu'il est parti, il a dû déplacer sa voiture. Et quand nous, on partait, il est revenu. Je lui ai dit, arrêtez, vous garez, descendez. Il s'est garé, il est descendu, on a parlé. Est-ce que vous savez que quand on a fini avec cet homme, quand on a fini la discussion avec lui, il nous a dit, tous ces gens que vous rassemblez le dimanche là, c'est pas eux qui ont besoin d'entendre ça. Vous devriez les envoyer dehors. Amen. Vous devriez les envoyer ici, par exemple, distribuer vos cartes, parce qu'on distribue nos cartes. Vous devriez les envoyer ici, distribuer. Parce qu'eux, ils connaissent déjà, ils ont entendu. Ça, c'était la personne qui, au départ, était très hostile et nous méprisait. Et à la fin, nous disait qu'il fallait pousser les chrétiens à évangéliser. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Les gens ne sont pas trop durs. Mais est-ce que les chrétiens sont disposés à se donner? Abba Haus, je vous invite à vous donner. Je vous encourage déjà à chercher d'autres prétextes, parce que le prétexte de « je n'ai pas le temps », ça ne marche pas. Il y a 24 heures dans la journée, chacun en a. Si vous n'avez pas le temps pour l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de perdre votre temps. Totalement. Amen. Nous allons prêcher l'évangile, nous allons être conduits par le Saint-Esprit. Je vous invite vraiment à prendre ces choses à cœur. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Et dans tout ce que... C'est la raison pour laquelle nous prenons ce temps pour écouter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis en tant qu'Église? Nous avons mis des choses en place. Nous avons, et j'avais chacun à dire, ma vie va compter pour quelque chose dans le royaume de Dieu. Je ne vais pas arriver au ciel sans voir une foule de personnes qui sont venues à la connaissance de Christ parce que moi j'ai parlé, parce que moi je leur ai annoncé l'évangile et qui sont devenues solides. Le cri de mon cœur, c'est que Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas être pasteur des gens qui ne t'aiment pas. Je ne veux pas être pasteur des gens qui ne se donnent pas pour toi. Je ne veux pas perdre mon temps, gaspiller mon existence à conduire un troupeau qui n'a pas de passion pour l'évangile. Et Seigneur, tu veux me bénir? Donne-moi la grâce de voir des gens qui ne te connaissent pas du tout et qui ne t'aiment pas du tout venir au pied de la croix. Et ensuite, accepter de devenir des disciples. Et je vais donner mon temps, je vais donner tout ce que j'ai pour les enseigner, pour les former, pour les aider à grandir, avoir un caractère, le caractère, ça compte? Caractère, c'est pas que, ouah, la puissance! Non, le caractère. Un caractère et une vie solide et devenir des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, des gens puissants. Et là, je considérais que je n'ai pas perdu mon temps. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous vivons. C'est pour ça que l'Église existe. Elle n'existe pas pour cajoler ceux qui sont déjà chrétiens. Elle n'existe pas pour résoudre la énième crise provoquée par leur désobéissance. Elle existe pour amener les gens à la connaissance de Christ, pour en faire des disciples et pour les envoyer, pour être une colonne de la vérité. Et nous allons être une colonne de la vérité. Nous allons tous participer, servir, être dans l'obéissance et la soumission vis-à-vis des autorités. Vous avez peut-être beaucoup de bonnes idées, mais tant que Dieu ne les a pas intégrées dans la vision de Abba Haus, de grâce, mettez-les à la poubelle. Si nous devions suivre les idées de tous ceux qui viennent, on serait totalement schizophrène. Dieu ne nous a pas appelés à la schizophrénie. Il a donné une vision, il a donné une direction, une conduite. Et quand on intègre une église, on intègre la vision. Et on se donne Quand on n'est pas disposé à intégrer la vision, on n'intègre pas l'Église. On ne peut pas tout faire. On fait ce que Dieu nous a dit de faire. Et quand on fait ça et on l'a fait bien, et on le fait bien, là on a l'approbation de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La maturité spirituelle, c'est s'impliquer dans une église locale. C'est comprendre que l'église est la colonne de la vérité. C'est comprendre que Jésus veut des églises locales fortes. Et c'est pour cela que nous allons bâtir d'autres. Et tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, rassurez-vous, on va vous former. Et on va vous envoyer faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Parce qu'on a besoin de gens dans cette nation qui vont annoncer l'Évangile. On a besoin de gens dans cette nation qui vont aller chercher les perdus. On a besoin des gens qui vont aller dans la rue. On a besoin des gens qui vont créer des églises. Partout en France, on en a besoin. On en a besoin. Ce que vous avez entendu et que vous entendez toutes les semaines, il y a des gens qui n'entendent pas du tout. Qui n'entendent jamais. On a besoin des gens qui vont aller dans des lieux où les gens n'ont pas entendu. Et quand on commence à penser comme ça, on cesse de penser ses plaies. Parce que dans tout cela, vous serez blessé, vous en avez besoin. Parce que ça va vous fortifier. Et je suis blessé, je m'en vais dans une autre église. Ok, tu reviens me dire quand tu seras blessé là-bas. C'est inévitable. Glory to God. Nous fonctionnons dans une vision, nous fonctionnons dans l'accord, nous fonctionnons dans l'unité, nous fonctionnons dans la maturité spirituelle. Et mon désir, c'est que nous arrivions. Ça, c'est très intéressant. J'ai amené ma Bible en anglais. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir dans Apocalypse? Vous savez, ça, c'est notre destination. C'est la parole. Béas, tu peux ouvrir et nous lire ce que Jésus a dit sur l'église de Philadelphie, s'il te plaît. C'est là où nous allons. C'est la parole prophétique que Dieu nous a donnée. Mais force est de constater qu'il y a un chemin. Il y a un itinéraire à emprunter. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. C'est dans Apocalypse chapitre 3, au verset 7.
Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Verset 12.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Nous allons garder la parole de Dieu. Nous n'allons pas renier son nom dans notre génération. Nous croyons que Jésus place devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Remercions le Seigneur pour sa parole. Père Céleste, nous te remercions. Te remercions d'avoir créé l'Église universelle et d'avoir créé aussi dans des localités différentes des églises locales. Te remercions pour cette possibilité qui est donnée à chaque homme et chaque femme d'être connecté à travers, avec toi, d'avoir une communauté de louanges, une communauté d'amour, une communauté de prière, une communauté de foi, une communauté d'adoration, une communauté de service à laquelle appartenir. Parce que Père, tu nous as sauvés pour vivre en communauté. Non pas individuellement dans notre coin, mais en communauté. Nous te remercions, Seigneur, parce que l'Église est ton idée. L'Église universelle est ton idée. L'Église locale est ton idée. Nous t'en remercions, Père. Te remercions de nous avoir placés au sein d'une église locale. Nous te demandons, Père, cette révélation du corps de Christ pour la révélation de la valeur de l'Église à tes yeux. Et que tu nous amènes, Père, en tant que communauté, à voir quelle est la valeur de notre Église, la valeur des frères et sœurs, à les honorer, à les aimer, et surtout, Père, à t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. Et nous te remercions, Père, de ce qu'aujourd'hui tu mets dans le cœur de chacun de nous, une véritable passion pour l'Évangile. Un véritable engouement pour les choses de Dieu, une soif de te connaître et un désir ardent de te faire connaître dans notre génération. Que cela soit la marque de cette Église, non pas nos chants, ni nos danses, ni quoi que ce soit, mais la passion pour le Fils de Dieu et le désir ardent de le faire connaître dans notre génération. Père, nous te remercions pour cela. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.